16h38. Ah, il y a déjà des gens qui sont en congé cette semaine. Il y en a d'autres qui travaillent dans la construction, qui comptent les minutes qui restent avant de partir pour les deux semaines de la construction.
Ils travaillent-tu vraiment en ce moment? Ils sont plus à glacière avec une petite collation et peut-être un breuvage frais.
16h39, ça, c'est la route. Là. Normalement, ils finissent vers 15h, 15h30.
Donc, ils sont peut-être au Québec beau. C'est des gros stéréotypes, hein?
Ben, pas tant!
Ben, à force de travailler avec toi, il y a quelque chose qui s'empare de moi.
Ben oui, tu travailles avec moi, puis j'ai le goût d'y aller au Québec Brou, tellement des fois tu m'aboutes!
Ah, oh, c'est mon rôle, je payais pour.
16h39, mon ami circule.
Difficile en ce moment, Laurentienne, en direction nord, à la hauteur de la capitale jusqu'à Jean Talon. En ce moment, c'est difficile. Sinon, sur la capitale, en direction ouest, un ralentissement à partir de Laurentienne jusqu'au boulevard Saint-Jacques. Direction est, entre Lormière et Laurentienne. Sur Robert Bourassa, en direction nord, à la hauteur, je vous dirais, de Charest jusqu'à la capitale, on est au rouge. Bonne congestion pour entrer sur le pont Pierre-Laporte en direction sud cette fois-ci. Ça commence à partir de Charest jusqu'à l'entrée du pont. Sur Duplessis, à partir du chemin Sainte-Foy jusqu'à l'entrée, c'est au rouge. Et je termine avec la 20 en direction ouest, un ralentissement assez long entre la route du président Kennedy et l'avenue Taniata. Vous voyez quoi que ce soit d'autre? 418-971-1021 par texto, les amis.
Quelque chose qui m'a énormément marqué et touché hier, c'est quand on vous a parlé du décès de l'ancien journaliste et ancien conseiller à la Ville de Québec, Jacques Teasdale, qui a marqué plusieurs décennies d'individus, d'après ce que je comprends, parce que j'ai lu la plupart de tous vos commentaires, autant sur mon Facebook que les textos qu'on avait reçus. Jacques Teasdale qui luttait contre le cancer qui s'est malheureusement éteint hier. Et on avait reçu son fils, il y a de ça quelques mois, pour parler de l'histoire de son père, parce que c'est une tragédie ce qui s'est passé. Là. Son père s'était pointé à l'hôpital, on avait découvert quelque chose, et par la suite, on lui a dit « ben, on va vous redonner rendez-vous ». Puis on avait, semble-t-il, oublié son dossier. Histoire complètement atroce. Si on avait fait les suivis, probablement que Jacques Teasdale serait avec nous aujourd'hui. Et aujourd'hui, ben, on a le plaisir de recevoir son fils, Olivier Teasdale. Salut, Olivier.
Salut.
Je te l'ai dit tout à l'heure, mais nos sympathies de la part de toute l'équipe, toute la gang de Leclerc Communication, puis tous les auditeurs qui connaissaient ton père, que ce soit en personne ou que ce soit par l'entremise de la télé ou encore lorsqu'il était conseiller municipal. Es-tu capable de vivre ton deuil, mis à part la colère que tu dois avoir? Es-tu capable d'entamer ton deuil présentement?
Écoute. Personnellement, je pense que mon deuil va commencer quand le combat va être rendu beaucoup plus avancé, lorsqu'on déposera une poursuite éventuellement contre l'hôpital Le CHU de Québec.
Parce que vous allez le faire, ça.
Oui, officiellement, on est déjà actuellement, le processus de poursuite est enclenché depuis le début du moment où on a su que Jacques avait un cancer. Par contre, il faut comprendre qu'il y a plusieurs étapes, il y a plusieurs délais. On est à l'étape présentement que le dossier soit rendu avec l'expert pour analyser le dossier, parce qu'il faut faire sortir les dossiers médicaux. Il y en a beaucoup. On parle d'un dossier qui a autour de 700-800 pages. Ça prend les imageries. Donc, on envoie ça à un expert par la suite. Il y a des frais à ça, puis il faut travailler avec ça.
Raconte-nous un peu l'histoire du tout début, là, celle que j'ai résumée très rapidement. Comment ça s'est passé? Ton père avait des problèmes de santé. Il était passé des premiers examens à l'hôpital?
Ouais. Écoute, Jacques avait des essoufflements, puis à partir de 2020, il a pris un rendez-vous, il a rencontré un pneumologue à l'Enfant Jésus de Québec, il a fait un examen, ce qu'on appelle un TEP scan, qui a découvert des masses qui étaient suspectes. À cette époque-là, on avait des masses suspectes qui n'étaient pas grosses, on parle de quelques millimètres, là, de 3, 4, 5 millimètres. On prescrit un suivi pour 2021, dans le but de s'assurer que ça ne grossisse pas ou de la retirer carrément. 2021, bien entendu, on a oublié Jacques. On l'a pas rappelé pour le suivi. Jacques a rappelé, lui, au début 2022 pour voir s'il y avait quelque chose qui était anormal dans son dossier. Pas de nouvelles, bonne nouvelle, qu'on dit toujours, hein, c'est le proverbe. Mais par contre, au courant des années qui ont suivi, 22, 23 jusqu'à 24, Jacques est rentré à l'hôpital quelques fois pour des problèmes de bronchite, de pneumonie qu'il avait. Donc, on a, à cette époque-là aussi, fait d'autres images de ses poumons qui sont aussi dans l'analyse de l'expert pour voir aussi qu'est-ce que les gens voyaient à cette époque-là. Donc, suivi ça, bien, le 3 mai, Jacques a été hospitalisé d'urgence pour une bonne détresse respiratoire.
Oui. Juste avant, puis je m'excuse de te
couper, y a pas
parce
problème.
Que je veux être sûr de bien comprendre. On avait découvert qu'il y avait des masses qui étaient très louches.
Oui.
On a dit, on vous rappelle.
Exact.
Finalement, quelques années plus tard, même si ton père avait fait quelques suivis, on ne l'avait toujours pas rappelé. Il s'est repointé à l'hôpital. On aurait fait à peu près les mêmes tests. Puis on a découvert que ces taches-là s'étaient développées, finalement.
Exactement. Ouais, le 3 mai, lorsqu'il est rentré à l'hôpital le vendredi soir, il a fait une nuit à l'hôpital complète jusqu'au lendemain. lendemain, Saint-François d'Assise, jusqu'au moment où l'urgentologue dit « c'est beau, vous pouvez sortir ». Fait qu'il se prépare, il appelle ma mère, il dit « je peux sortir de l'hôpital », fait qu'on va aller le chercher. Il est parti en ambulance, donc on ne le fera pas venir en taxi pour rien. Par contre, il y a un autre urgentologue qui vient voir Jacques, il dit « non, finalement, vous ne sortirez pas, là. J'ai vu des taches anormales sur vos poumons, on va vous garder ». Puis là, ils nous ont fait descendre. Puis c'est là qu'à partir d'un moment, ça défile vite. Hein, quand on arrive, des taches au poumon, on comprend tout de suite que c'est grave à l'heure où... Déjà, le samedi matin, le 4 mai, on comprend déjà que c'est grave par le ton du médecin, par les explications qu'il nous donne. Il dit, il y en a plusieurs, il n'y en a pas juste une. Puis il nous montre une masse que Jacques avait à la clavicule gauche, une masse qui était importante, que Jacques n'avait pas nécessairement vue, puis qui ne le gênait pas à l'époque, qui était beaucoup plus petite. On parle d'une masse qui avait 6 par 7 cm intérieur-extérieur, qui est devenue plus tard une masse de 12,5 par 13 cm extérieur. Mais à cette époque-là, Jacques, ça ne le gênait pas, cette masse-là. T'sais. Mais c'est là qu'on a compris ce matin-là que le suivi n'avait pas été fait parce qu'on nous l'a confirmé aussi cette journée-là. Okay. Puis
eux, il y avait vraiment les documents comme quoi, OK, la première lecture, il y avait de quoi de louche, on était supposé le rappeler.
Exactement.
Puis, quatre ans plus tard, le même monsieur était là avec des problèmes qui ont dégénéré.
Exactement.
Puis ils vous l'ont expliqué. Ils l'ont dit mot pour mot, on vous a oublié.
En fait, je me rappelle très bien, l'après-midi du 4 mai, là, écoutez, c'est pas si loin que ça, mais quand même, la médecin, qui était une dame qui était une médecin en médecine interne, parce que c'est la médecine interne qui prend le relais après ça à l'urgence, nous dit, bien, comme je disais, d'un ton quand même, avec un malaise, mais un ton certain, elle nous disait, bien, le dossier de votre père est tombé en deux chaises. J'étais avec ma mère, puis on se regardait, puis... Il tombe en deux chaises. Il va falloir que vous nous expliquiez un petit peu plus ce bout-là. Parce
quoi,
que,
c'est
ouais,
ça.
C'est ça. Il est où? Son dossier, il est où? Ben, il a été oublié. C'est, le système a oublié votre père. Comment le système a oublié mon père? Probablement que ça va rester dans les classeurs pour un bon bout de temps jusqu'à temps qu'on décide de se rendre à la cour, mais le dossier a carrément été oublié.
OK. Suite à ça, ton père l'a pris comment, cette nouvelle-là, qu'il y avait un combat à livrer auquel il ne s'attendait pas pantoute?
Ben, vous savez, Jacques, c'était un individu qui était c'était un grand bonhomme, c'était un grand gaillard. Je pense que tout le monde qui le voit télé... C'était un monsieur qui était fier, heureux, puis avec un gros courage.
Avec la voix qu'il a, y a-tu fait... Puis la grosseur qu'il avait, y a-tu fait le bonhomme carnaval, lui?
on l'aura jamais su. Ben, malheureusement, il va l'avoir amené avec lui.
Il te l'a-tu déjà avoué?
Je pourrais pas te dire, malheureusement.
Il y avait des rumeurs
je
à
pas
l'époque.
Dire. Il y avait la carrure. Je peux dire qu'il y avait la carrure.
Puis il y avait la voix, puis il y avait la diction pour le faire. Là.
Oui. Mais c'est ça, c'est un individu qui était fier. C'est la frustration, je pense, qui vient de chercher en premier, de dire que tu vas perdre des années de ta vie. Parce que quand on annonce à Jacques la semaine suivante que c'est vraiment le cancer des poumons, bien, on lui dit que c'est un stade 4, on sait que c'est incurable, hein, ça ne se guérit pas. Maintenant, c'est combien de temps je vais vivre? Combien de temps je vais pouvoir encore profiter de la vie? Aujourd'hui, on est forcé d'admettre que la maladie a été beaucoup plus vite que ce qu'on pensait, parce que Jacques est décédé hier. Mais écoutez, il y avait cette frustration-là, mais il a gardé sa joie de vivre avec nous autres, puis il était fier. Il y avait encore sa fibre journalistique. Encore cette semaine, il me disait, il y a une madame qui a un problème dans une chambre. Là, il va falloir qu'on regarde ça pour elle. Il dit, ça n'a pas de sens pour elle. Mais il y avait encore cette fibre-là.
Il était lucide, il communiquait ça.
Il y a eu un petit bout plus difficile, mais il voulait continuer encore à aider les gens. Mais il restait fier. Il nous disait, puis écoute, mon équipe de l'entreprise allait le voir. Tout le monde allait le voir. Puis il restait fier avec nous autres. Puis d'une droiture, avec un beau sourire, on a fait une photo lundi que j'ai mis sur Facebook. On faisait des grimaces à des gens parce qu'on était au taco. Puis ils voulaient rire. Puis j'ai dit, on va faire ça. Puis ça va nous amuser.
Y étais-tu sensible à, assurément à plein de choses, mais d'abord et avant tout, devait le garder pour lui, mais sensible à ces circonstances-là? Y a-tu quelque chose pour lui qui a été dévastateur du fait qu'il a quitté avant d'en arriver à un but ou.
Bien. Jacques voulait se rendre, aller déposer sa poursuite pour se faire rendre justice. Je pense que c'était ce qui était important pour lui. Puis il nous le disait souvent, on aimerait ça que... J'aimerais ça voir le moment où vous allez déposer la poursuite. Il dit, me semble qu'après, je pourrais partir tranquille.
Oh, il aurait voulu vivre.
Mais malheureusement, comme le destin a choisi autrement, mais nous, on va le continuer pour lui. Mais il aurait aimé ça. T'sais, il aurait aimé ça être là pour le voir. Il aurait aimé ça être là pour qu'au moins on le rende justice. Vous savez, dans les jours qui ont suivi l'annonce, le cabinet du ministre a dit que c'était une situation inacceptable. Et juste ces mots-là, pour lui, voulait dire beaucoup de choses. Fait qu'il dit, au moins, ils sont sortis pour dire que c'était inacceptable.
Ouais.
Ils ne sont pas cachés en arrière d'un mur.
Olivier Teasdale, cette cause-là est épouvantable. C'est la cause de ton père. Ton père est malheureusement décédé. Puis oui, vous devez obtenir justice. Mais moi, je t'encourage non seulement à le faire pour ton père, mais aussi pour les autres qui ont été oubliés aussi. C'est pas normal qu'on oublie des patients quand on leur dit retournez chez vous, ne vous inquiétez pas, on va vous rappeler puis qu'on les oublie. J'imagine avec la médiatisation du décès de ton père, avec l'histoire de ton père, parce que tu es venu nous voir, tu nous l'as raconté, il y a eu des gens qui se sont confiés à toi en disant « Hey, ton père, on est triste, mais il n'est pas le seul. Moi aussi, j'ai été oublié, ou ma soeur a été oubliée, ma mère, mon père a été oublié. »
C'est réconfortant puis alertant en même
temps. Puis ce combat-là que tu fais, ben ça va servir non seulement à rendre justice à ton père, mais aussi à ce que le système se regarde dans le miroir et se dise « OK, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on oublie des gens puis que ça, la finalité, c'est la mort? »
Exactement. Puis si vous imaginez le nombre de gens qui nous ont écrit à la suite de la première partie médiatique, de dire « Moi, c'est mon père qui a été oublié. Moi, c'est moi qui a été oublié. » Il y en a des tonnes. Puis Jacques nous a dit quelque chose, puis je pense que c'est ce qu'il faut retenir du décès de mon père aussi. C'est qu'il dit « Moi, je m'appelle Jacques Tisdale, j'étais populaire dans la vie, j'ai eu cette chance-là. » Mais Jean Nadeau, Pierre Tremblay ou Éric Lachance n'a pas la même chance que moi, peut-être pas la même force d'aller combattre que lui, mais il dit « Il faudrait que ces gens-là ne soient pas oubliés non plus. »
Exact.
Je pense que le nom de Jacques Tisdale, il faut qu'on le retienne aujourd'hui dans le sens où dire ben, « il va falloir que là, les choses changent. » C'est pas vrai qu'on peut dire maintenant « On oublie quelqu'un, puis la mort, c'est une fatalité. » Hein, c'est fatal. On ne reverra plus mon père dans deux jours, dans trois jours. Il n'est pas là pour m'appeler à soir. Donc, cet oubli-là a une fatalité incroyable, mais il n'y a pas juste Jacques Tisdale. Il y en a beaucoup d'autres. Puis il faut que le gouvernement, à un moment donné, mette ses culottes et dise là, c'est assez. Il faut rendre les médecins imputables de leurs erreurs. Du moins, le système imputable de leurs erreurs. Il faut que les erreurs arrêtent.
Oui, puis ne pas juste se contenter de l'avis d'un seul médecin.
Exactement.
T'sais, soyez pas gênés au montant qu'on leur envoie à chaque semaine à la santé. Soyez pas gênés d'aller consulter un autre expert. Fait que vous avez des chances que les deux vous rappellent, mais au moins, vous allez être rappelés, c'est sûr et certain.
Mais c'est pas aussi facile qu'on pense non plus. T'sais, une fois que tu as vu un expert, il y en a qui refusent parce qu'ils se disent « ben là, vous avez déjà vu quelqu'un, on peut pas aller dans une autre expertise. » Il y a une façon de se protéger, puis je dis pas qu'il y a... de façon malsaine ou méfiante ou autre, mais ça reste qu'on a tellement de difficultés dans le système de santé, puis d'aller chercher nous-mêmes, mettons, une autre approbation sur notre code santé, c'est difficile.
Ouais. Juste leur expliquer aux médecins que c'est nous qui payons leur salaire, puis qu'à un moment donné, on veut être sûr d'avoir deux expertises pour avoir le cœur net de ce qu'on a réellement. Soyez pas gênés. Dans le doute, soyez pas gênés. Appelez à l'hôpital, même si vous avez peur. Tu sais, souvent, les gars, on est crissement mal fait pour ça.
L'orgueil.
Et on est orgueilleux, ils me rappelleront quand ils me rappelleront, puis on a l'impression que parce qu'ils ne nous rappellent pas, on n'est pas malin. Non, non, appelez. Soyez sûr que votre dossier est encore en traitement, qu'il est encore là, puis qu'ils ne vous oublieront pas. T'sais.
Exactement.
Faut suivre. T'sais, on ne peut plus leur faire confiance. Fait qu'il faut suivre notre dossier jusqu'au bout. Moi, ton père m'a marqué. J'étais jeune, puis je le voyais à télé avec sa grosse moustache, sa chevelure. puis tu m'as rappelé quelque chose tantôt. Parce que tu sais, des fois, nos souvenirs peuvent se mélanger. Il mettait un manteau de poêle à la télé, mais c'était formidable, ça.
C'était l'époque. C'était l'époque. C'était le personnage.
C'était l'époque. Il a travaillé combien de temps? Il a fait le Journal de Québec, puis il a fait aussi TVA.
Il a fait Dimanche matin, Journal de Québec, TVA.
Dimanche matin, je me souviens pas de ça.
C'était un journal de Montréal. Écoute, ça, c'était... Il faisait... La tribune se faisait dans le sous-sol de la maison chez mon père. Les textes étaient fidés à partir du sous-sol de la maison de mon père. Il y avait des journalistes dans le sous-sol, puis dans ce temps-là... Écoutez, on était jeune à l'époque, mais on se rappelle de ça.
Ah, c'est t'avais
des grosses machines, puis les feeds partaient du sol de la maison. Ben oui. Écoute, ça partait de là. C'était un journal qui était judiciaire. Oui, il faisait chaud, puis il y avait de la fumée.
Lui, était au fait d'hiver, fait qu'il était tout le temps parti.
Oui, genre, écoute, je me rappellerai toujours, à un moment donné, on jasait, c'était étrange, j'étais avec Pierre Jobin qui était à TVA dans le temps.
Le camion
de mon père de TVA virait 7 jours par semaine. 24 heures par jour, il ne s'arrêtait jamais. J'ai dit, c'est sûr que s'il y avait des environnementalistes qui étaient proches de toi, ils ne devaient pas t'aimer dans ce temps-là. Et j'ai dit, la carte de gaz doit coûter énormément cher à TVA parce que ce camion-là virait, puis il changeait aux deux ans parce qu'il y avait trop de kilométrage. Genre, il faisait beaucoup de kilométrage. Puis il était tout le temps dans son camion. Il vivait dans son camion. Il a passé une partie de sa vie à l'extérieur de la maison parce qu'il faisait des reportages. C'était tout le temps. C'était 24 heures. Il se levait la nuit. Il avait un réseau de contacts incroyable. Un de vos collègues m'a dit ce matin, Jacques, c'était un journaliste au Cardex, la poignée de main. Puis le téléphone à roulette.
Ah, puis il avait une grosse main aussi.
Il avait une très grosse main. Il avait une très bonne main.
Il l'a rencontré qu'une seule fois, puis c'est ce qui m'avait marqué. C'était sa poignée de main qui était impressionnante. Fait que c'est ça, il était tout le temps dans son camion.
C'était une passion, de ce qu'on comprend. C'était un passionné. C'était un amoureux de ce qu'il faisait.
Vous êtes son fils, Olivier. C'est quoi la plus belle leçon de vie que votre père vous a donnée?
Sa droiture. Le fait que ça a été un homme intègre, un homme fort. je pense qu'aujourd'hui, ce qui nous permet de venir vous parler dans les médias aujourd'hui, c'est ce qui nous a transmis, la force qu'il nous a donnée, c'est de rester droit puis de garder la force de combattre. Puis il y aura un temps pour se reposer quand le combat sera fini. Puis Jacques, c'était ça, c'est de continuer à aider les gens autour de nous autres, à bien le faire, puis à travailler.
La suite, c'est qu'il y aura une poursuite. Oui. Ça, c'est sûr et certain. Puis, ben écoute, as-tu gardé tous les souvenirs de ton père, ses reportages, ses photos?
J'en ai beaucoup, j'en ai beaucoup. Puis j'en regardais d'ailleurs ce matin qu'on a sorti de YouTube. C'était étrange, c'était drôle. C'est la première femme chauffeur d'autobus. Ils se demandaient si on disait chauffeur ou chauffeuse de la CTCUQ. Écoute, Jacques, avec, comme vous le dites tantôt, la touffe de cheveux sur la tête, mais le micro de Patonique dans ce temps-là était énormément petit, étrangement, pour la main que mon père avait, fait qu'on voit juste la boule de poêle du micro. Avec la chevelure, puis la madame qui est dans l'autobus, on voit que c'est un reportage. C'était en 88, donc c'est un reportage qui est beaucoup plus vieux.
Tu vas-tu mettre ça sur ton Facebook?
Je vais faire... on va en mettre. Puis d'ailleurs, même ce matin aussi, là, à la télévision, ils ont ressorti des images d'archives, là, genre, qui sont assez incroyables.
Des belles années en plus. Oui, ils ont honoré ces années-là. Oui. J'aurais aimé ça, vivre ces années de journalisme-là. Vous avez été chanceux quand même, pas plus de le faire avec votre père.
Comme enfant, on était toujours avec mon père dans son camion.
C'est fou, ça.
Ma mère était fâchée. Elle disait, pourquoi tu les amènes là?
Parce que tu peux voir de plein de choses.
On a vu beaucoup de choses jeunes. Ouais. Je pense que c'est ce qui a fait que ça a développé notre fibre un peu journalistique.
Une anecdote avec...
Écoutez, avec mon père, la plus belle anecdote que je peux vous conter, c'est du moment où moi, je travaillais à TQS comme caméraman au Fait d'hiver, genre qui était à TVA. J'étais assez content.
En compétition, là.
Oui, on était en compétition, puis j'étais assez content de partir avant lui pour un événement. C'était dans le temps des fêtes, puis j'avais appelé mon journaliste de l'époque, qui était Dave Parent. Puis j'avais dit, écoute, on s'en va, mon père le sait pas, fait qu'on part. Puis je pense qu'il ne l'a pas vu. Finalement, quelques minutes plus tard, il nous a dépassé 173 pour monter dans la bosse, puis il nous a envoyé à la main. Je vous dirai pas ce qu'il a fait au complet. Puis il a eu le culot de nous faire barrer à la barrière des médias.
Il vous a empêché d'entrer.
Il y a deux autres, ils passent pas.
Ah, c'est bon.
Puis Jacques avait beaucoup plus de contacts dans la police que nous autres, on l'avait à l'époque. Il avait dit, ces deux-là, t'es laisse l'autre bord.
Ah, c'est bon.
Ça, c'est le père que je veux être.
En tout cas, t'es l'animateur comme ça, là. Ça, c'est sûr. Là.
Mais il aimait son métier, puis il aimait surtout les collègues, puis les gens qui faisaient ce métier-là. Tu sais, je l'ai dit à d'autres gens, puis je vous le dis à vous autres aussi, parce qu'il écoutait chaque entrevue qu'on a faite. Puis il a dit, ces jeunes-là, ils sont bons. Il dit, bon Dieu, qu'ils sont bons.
Mmh. Oh, comment est-ce qu'on peut, en fait, souligner la mémoire de votre père? Il y a des gens à l'écoute qui vont peut-être vouloir faire un clin d'œil. T'sais, ça a marqué quand même Québec au complet. Ouais.
Écrire sur la page,
je pense que c'est bien simple, c'est parfait de le faire comme ça. On les lit tous. On n'a pas eu le temps de répondre à tous parce qu'il y en a plus de 2000 depuis hier.
Ouais.
Mais on apprécie. Puis je pense que Jacques, d'en haut, l'apprécie aussi. Je suis persuadé qu'il le voit. Puis je suis persuadé qu'il est là. Puis il est content de ce qu'il voit.
Olivier Teasdale, merci.
Merci à vous tous.
Bye-bye. À la prochaine.